ça c'est un petit peu notre leitmotiv, c'est d'avoir un rapport avec nos souvenirs de tradition, mais aussi en le mettant dans notre époque. Je m'appelle Sengun de Jambre et je suis propriétaire du restaurant L'Air du Temps qui se trouve à Lire-Nu.
Chaque année, Fourchette réunit de grands chefs qui offrent une expérience gastronomique dans un lieu spécial à Gand. Et pour le podcast, je leur ai posé quelques questions sur l'emplacement de leur entreprise ou de leur restaurant. Qui ils ont vraiment en tant que personne et en tant que professionnel? Quelle est leur inspiration ou leur philosophie? Ce que l'équipe représente pour eux et comment ils envisagent l'avenir? Et à la fin, ce qu'ils pensent de Fourchette. Je suis Sabine Houthals et votre hôte. Mais cette fois-ci, je garderai le silence et laisserai la parole au chef lui-même. Écoutez et savourez.
Donc, nous sommes ici dans une ferme en carré. C'est typiquement Esbignon, donc 4 bâtiments avec un terrain qui fait plus ou moins 5 hectares. L'Air du Temps existe depuis maintenant 25 ans, mais ça fait 10 ans que nous avons déménagé dans ce lieu. Donc l'idée était de continuer à faire notre travail autour d'une production végétale dans notre propre jardin. Donc le jardin, ça fait déjà plus de 20 ans que nous le pratiquons et 10 ans dans cette ferme. Donc ce bâtiment était une ferme qui était en activité. Et donc on a tout recréé de zéro, donc là toute la rénovation a été faite par nous, on a réinstallé les cuisines, enfin pour en faire un vrai et beau restaurant. Donc on vient d'un endroit, donc l'ancien restaurant était au bord d'une chaussée, aussi dans la même région, mais c'était vraiment tout petit, donc ici on est 20 fois plus grand. Donc ça a demandé une autre gestion, notre manière de travailler a changé aussi, et le fait d'avoir le jardin vraiment dans le restaurant, mais ça nous a permis d'avoir encore une autre dimension. Et c'est un travail aujourd'hui qui est la continuité de ce qu'on a mis en place il y a 25 ans, et en même temps notre réseau de producteurs, notre réseau de personnes avec qui on travaille a grossi depuis aussi 25 ans. Donc tout ce qui est production animale, végétale, provient vraiment principalement de la Belgique. On est ici dans la campagne esbignonne, donc c'est vraiment un terroir de fermiers, de campagne. Et donc on est dans une ferme qui est typiquement à la base dans son jus, mais on voulait aussi lui donner une touche moderne, contemporaine. Donc c'est pour ça que les bâtiments sont travaillés sur le gris et le blanc pour faire ressortir. La plupart ici des fermes sont plutôt en couleur brique. Et donc c'est là qu'on a déjà une rupture visuelle par rapport à ce qui se fait dans les environs. Ici à l'intérieur, ce qu'on voulait c'était garder un dégagement visuel. Donc on a des longs couloirs qui permettent de voir la dimension du bâtiment. Et chaque pièce sont gardées comme elles étaient avant dans les fermes. Donc ce sont des petites pièces mais ici qui sont côte à côte. Et donc chaque pièce ont été travaillées de manière contemporaine, mais en ayant toujours, ça c'est un petit peu notre leitmotiv, c'est d'avoir un rapport avec nos souvenirs de tradition, mais aussi en le mettant dans notre époque, dans l'époque contemporaine. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours pour nous de terroir contemporain. Le terroir, ça dit cette tradition, cet ancrage dans la terre. Et le contemporain, on vit à notre époque et on travaille avec les outils de notre époque, avec l'inspiration, avec la technologie. Les idées principalement pour tout ce qui est, par exemple ceci, il y a un rapport avec le pratique en fait. C'est-à-dire que quand on était ici, les salles de restaurant étaient ici, il n'y avait pas tout ça, on avait 4 tables et ça résonnait beaucoup. Donc on s'est dit, on a un problème d'acoustique et je ne voulais pas mettre ces panneaux acoustique qu'on essaye de cacher mais qu'on voit quand même. Nous, on en a fait quelque chose d'assez visuel puisque ça représente des feuillages en fait. Et vous voyez la lumière qui passe au travers, c'est comme la lumière de soleil qui donne des ombres sur les tables comme si on était à l'extérieur. Donc il y a une autre vision aussi, c'est comme si on était sous la terre et ça ce sont les racines. Voilà, c'est toutes des inspirations. On a demandé à un jeune artiste, un jeune designer qui s'appelle Quentin Ledoux, qui maintenant est très très connu aux États-Unis et dans certaines sociétés où il a créé des objets vraiment spécifiques. Et je lui avais expliqué mon projet et voilà, il est venu avec une idée de cordes de bateau. Les cordes de bateau, normalement, il y a une petite ligne bleue, mais elles ont toutes été retirées. Et on a coupé ça à trois dimensions différentes pour avoir cet aspect visuel et en même temps cet aspect acoustique. Quand on est dans cette pièce, ben on est vraiment bien isolé au niveau du son, quoi. Ça ne résonne pas. Quand on est arrivé dans ce restaurant, ben on a d'abord voulu bien comprendre le lieu, ce qui était nécessaire. Donc au début, les pièces étaient toutes blanches. Les gens disaient oh, « c'est bizarre, c'est froid ». Et nous, on ne voulait pas mettre des choses pour mettre des choses. Il fallait vivre un tout petit peu dedans pour voir ce qui était nécessaire. Et donc, au fur et à mesure, on a ajouté des choses. Ici, on l'a décoré. Puis, il y a 5 ans, on a changé un peu la configuration puisque les salles ici, c'était des petites salles qui donnent pas sur le jardin. On ne voyait pas le jardin. On voyait juste la petite cour intérieure. Et on a décidé de faire une salle qui était face au jardin. Donc, c'est une grande baie vitrée qui fait 20 mètres de long. Avec aussi un travail sur le plafond. Donc ce sont tous des méandres en bois. C'est très visuel et en même temps c'est pratique parce que c'est une direction aussi acoustique. Donc on a une salle de restaurant qui est assez conforme au niveau du setting avec un tapis au sol, avec des nappes. Donc ça c'est tous des paramètres que les gens connaissent et ça leur met dans un certain confort. Et ce confort nous permet d'être un peu aussi en rupture dans la cuisine, de faire des choses qui sont un peu différentes pour amener les gens, comme je le disais, confort. Le confort est important, ça rassure les gens. Et puis à côté de ça, on peut leur montrer ou leur démontrer des choses différentes. Voilà. Quand on est arrivé ici, on a vu la ferme, on s'est dit on va pouvoir faire quelques chambres. Et je pense que ça c'est une bonne idée parce qu'on est quand même à la campagne, on est à une petite heure de Bruxelles, donc c'était nécessaire d'avoir en tout cas quelques chambres. Et donc on a commencé avec 5 chambres il y a une dizaine d'années et il y a 5 ans on a rajouté 6 chambres dans un autre bâtiment. Il est toujours difficile de se définir en tant que personne et c'est souvent plus notre entourage qui peut se permettre de le dire. Mais je pense que c'est important de pouvoir s'auto-analyser pour savoir qui on est et comment on peut réagir avec notre environnement. Donc moi, en tant que personne, je suis une personne qui, de prime abord, est un peu timide et un peu réservée. Mais mon métier m'a permis de m'ouvrir aussi sur les personnes. Donc c'est un métier de relation. Et inévitablement, ça t'oblige à te sortir un peu de ta zone de confort. Donc de ce départ un peu réservé, mais ça n'a pas que des mauvais côtés. C'est un côté plutôt où je suis plutôt observateur et j'écoute beaucoup, mais je parle peu. Donc c'est comme ça que j'ai appris énormément en tant que professionnel parce que je n'ai jamais cuisiné avant d'avoir ouvert mon restaurant, mais j'ai beaucoup observé, je me suis beaucoup renseigné, documenté, appris par moi-même. Donc nécessairement, quand on est timide, on n'ose pas demander. Donc on va apprendre par soi-même. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai appris les choses. J'ai été sommelier, vice-champion de Belgique, alors que j'ai jamais suivi de cours. Donc je l'ai fait vraiment en autodidacte. Je suis cuisinier alors que j'ai jamais cuisiné avant. Je suis entrepreneur alors que j'ai jamais suivi des cours de gestion. Tout ça, c'est vraiment de l'observation et en tout cas de pouvoir vite comprendre un peu les situations. Donc je m'adapte très très vite aussi aux situations. Moi, je dirais que c'est un peu ça mon caractère principal en tant que personne, mais qui me sert aussi dans mon métier. Et quand on dit qu'on scinde le privé et le professionnel, ça paraît compliqué de le faire parce que je ne suis qu'une seule personne. Et donc en tant que personne, ben, je vais être aussi à l'écoute puisque justement, je ne vais pas nécessairement poser des questions sur comment tu vas, comment ceci, comment cela. Aujourd'hui, je le fais peut-être de manière plus normale, mais c'est pas naturel chez moi. Donc, je vais plutôt observer un peu comment les gens se comportent, comment ils réagissent, et je vais plutôt m'adapter par rapport à ça. En tant que professionnel, je trouve que c'est important l'observation et l'écoute. Et aujourd'hui, ben, avec un peu d'expérience et un peu d'années, mais ça me permet d'être un peu plus en interaction avec les gens, ce que je ne faisais pas auparavant. Mais la cuisine ou la gastronomie ou la restauration, parce que c'est aussi un cheminement logique. Au début, on dit on va faire la cuisine parce qu'on aime manger. Ça, c'était mon cas. C'est pas nécessairement pour l'idée d'avoir un restaurant ou d'avoir des étoiles ou d'avoir quoi que ce soit qui correspond à un restaurant. Moi, je voulais juste cuisiner parce que j'aimais manger. Mais au fur et à mesure, j'ai travaillé dans différents restaurants et j'ai vu ce que c'était la cuisine, j'ai vu ce que c'était le rapport avec les clients, voir comment ils étaient contents ou pas contents. Il y a des gens parfois qui disent qu'ils sont contents, mais on voit tout de suite dans leur visage que c'est pas vrai. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on a travaillé dans le métier du service, parce que c'est ce que j'ai fait au départ. J'étais serveur sommelier et j'ai pu observer les gens, comment ils se comportaient par rapport au vin que je leur servais, par rapport à tout ça. Et donc le métier est devenu ma passion, mais vraiment avec le temps. J'ai pas choisi à faire ce métier dans un premier temps, et au fur et à mesure de le faire, ça m'a permis de révéler des parties de moi-même, et c'était intéressant de le voir comme ça. Et c'est comme ça que le métier est devenu quelque chose qui faisait partie de moi. Et les circonstances font que, voilà, on voit par exemple la période du Covid. Pour beaucoup, ça a été une période un peu difficile, un peu de fermeture. Et moi, ça a été une période très révélatrice qui m'a vraiment montré que c'était le métier qui était fait pour moi. Il y en a beaucoup qui, après le Covid, se sont posé des questions, et il y en a beaucoup qui ont fermé. Et il y en a beaucoup qui ont continué aussi, qui ont dit, ben voilà, encore plus maintenant, je sais que ce métier-là, il est fait pour moi. Et c'est vraiment ma position aujourd'hui. C'est comme n'importe quel métier. Il y a des moments où vous avez envie, des moments où vous n'avez pas envie, même si vous êtes passionné. Et donc, c'est ça, c'est souvent des situations qui viennent peser sur votre métier, mais c'est jamais mon métier qui me pèse au quotidien. C'est des petites circonstances qui font en sorte que ça paraît compliqué. Par exemple, on a 5-6 personnes qui partent de notre équipe, ou là, tout à coup, on a des clients qui sont un petit peu plus exigeants, ou parfois un peu durs, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc, c'est la relation humaine, ça fait partie du jeu. Et donc, ça nous fait nous reposer des questions. Mais au fond, de manière très sensée, mon métier m'aide toujours à compenser tout ça. C'est parce que je l'aime que je me rends compte que voilà, si les gens sont un peu difficiles, on va peut-être faire autre chose, faire quelque chose pour les contenter. Si nos équipes s'en vont, on va peut-être se poser des questions pour comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir compenser aussi ça. Donc le métier en général m'a toujours forcé à trouver des solutions par rapport aux difficultés. En termes de cuisine, je pars du principe que je suis parti d'une page blanche, donc je n'avais pas de style. Mon style, c'était le vin. J'adorais, je m'occupais du vin, donc j'ai toujours, au début, j'ai fait des créations de plats en fonction de ce que je ressentais dans le vin. Donc un des premiers plats, par exemple, c'était un filet de Saint-Pierre au parfum de grand vin blanc de Bourgogne. Les blancs de Bourgogne, c'est de la torréfaction, c'est des notes de vanille, de beurre, de noisette. Mais j'ai fait un plat qui contenait du café, du beurre, de la noisette, de la vanille. Et ça paraissait nouveau à ce moment-là. J'ai fait des plats autour du vin rouge qui étaient du bœuf avec des notes de poivre long, des genévriers, de la mûre, de la framboise, autour d'un plat de bœuf qui allait super bien avec un vin du Roussillon, par exemple. Et ça, pour moi, c'était facile. Et partir de cette idée-là, mais au fur et à mesure, j'ai appris, je voulais avoir plus de techniques pour avoir mes propres plats, pas devoir copier dans un livre des recettes. Donc j'ai vraiment évolué avec mes envies et avec des constats. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai jamais cuisiné, un jour je vais avoir un problème de créativité parce que je n'ai pas fait l'école. Donc c'est comme ça qu'est arrivée la vague de la cuisine moléculaire, qui était pour moi une manière de comprendre ce qu'était la cuisine. Tout ce qui était chimie et physique, pour moi, je comprenais mieux. Et si je comprends, je peux créer quelque chose qui est personnel et créer un style. Et en même temps que cette période moléculaire, on a créé le jardin. Donc on avait la technique et on avait les produits. Et il n'y avait plus que moi qui devais interagir avec les deux pour faire quelque chose qui était unique. Au fur et à mesure du temps, on est arrivé avec une trame est vraiment plus végétal, avec le travail d'un producteur. Mais au fond de moi-même, il y a une part de moi que je devais révéler, je suis coréen. Et la Corée vient de plus en plus épicer ma cuisine pour faire en sorte que ce soit une cuisine qui soit encore plus unique. Voilà, les produits, la technique et cette émotion que j'ai en moi et que je veux donner aux gens, c'est cette émotion qui est une part de la Corée. Je pense que au travers de la cuisine, je raconte une partie de mes émotions, parfois une partie de ma vie, parce que, comme je l'ai dit, je m'exprime pas toujours facilement par la parole. Et l'art ou la cuisine, ou toute forme d'art, c'est une manière, une forme d'expression. Exprimer des choses qu'on n'arrive pas à faire avec la parole. Un dessin, un tableau, une sculpture ou un plat, mais ça révèle une partie de vous-même et chaque plat a son histoire. On le fait par une certaine envie, on le fait parce que voilà, on a été touché par une rencontre, par un tableau. Moi, j'ai pas mal de plats qui parlent de tableaux, des hommages à Pierre Soulages, Jackson Pollock, Leschinski, voilà. Ou j'ai des plats qui parlent de la Corée, qui ont des noms de Corée. J'ai des plats qui parlent simplement d'un légume parce que j'ai trouvé un légume fabuleux. Ou j'ai des plats qui parlent, qui ont des notes de ceviche parce que je suis allé au Pérou. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui révèlent que c'est comme un chanteur. Parfois, il raconte ses malheurs, il raconte ses histoires et ses épreuves. Mais je fais la même chose avec mes plats. Donc, les produits végétaux sont majoritairement issus du jardin. Donc, on est, je dirais, autonome à 95% en pleine saison. Et en hiver, on se permet d'avoir quelques légumes qui viennent de l'extérieur. Mais c'est souvent local. Tout ce qui est viande, etc., ça vient de mon voisin en face qui me fait les agneaux. J'ai un élevage de cochons du côté de Tabreux, du côté d'Esneux, près de Liège. Le bœuf vient de là-bas. Le bœuf limousin vient d'un autre producteur qui s'appelle Lothar, qui est du côté de Müringen. On a des homards de l'Osterscheld. On travaille avec le caviar belge de Turnhout. On travaille beaucoup avec la Belgique, en tout cas à 80%. Et on a des poissons qui viennent de Bretagne ou de Normandie. Voilà, c'est vraiment un peu notre cercle et quelques produits qui viennent de Corée, mais voilà, des choses que je ne sais pas avoir, mais la plupart du temps, même les produits coréens, je commence à les faire moi-même. Je veux pas me couper du monde. Je dis toujours que je suis un homme de Belgique qui vit dans son terroir, mais qui reste quand même ouvert sur le monde. C'est important de pouvoir observer, pour pouvoir créer quelque chose qui soit cohérent dans l'enceinte du pays, quoi. C'est clair que en tant que cuisinier, on peut cuisiner tout seul. Dans ce cas-là, on invite ses amis, on fait à manger. On peut cuisiner tout seul, même pour une petite table de découvert. Mais je trouve que quand tu cuisines tout seul, tu es toujours limité, il n'y a pas d'échange. Et ce qui fait en sorte que ta cuisine elle s'enrichit, c'est parce que tu as rencontré d'autres personnes. Et donc, c'est ce qui se passe aussi dans un établissement comme celui-ci. On est une trentaine de personnes, que ce soit au jardin, que ce soit en cuisine, en salle, etc. Et on a des gens de différents âges. Des gens qui ont mon âge et des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, ils viennent ici pour apprendre quelque chose. Mais il faut bien se dire que c'est de l'ordre de l'échange. On dit toujours, mais j'entends beaucoup, quand on félicite un chef, il dit merci à mes équipes, etc. Mais ça va bien au-delà du juste merci. Parce que merci, ben, c'est facile à dire. Mais comment est-ce qu'on les remercie au quotidien? Ben, c'est d'être avec eux tout le temps. C'est pas de les laisser travailler tout seul et dire bon les gars, il y a ça, et ok, on vous voit dans 2 jours. Moi, ça marche pas comme ça. Je suis avec eux du matin au soir. Si j'ai un événement à l'extérieur, j'essaie de les inclure avec moi. Je peux pas prendre toute l'équipe. Mais j'essaie en sorte qu'ils vivent aussi la même vie que moi, pour qu'ils comprennent ce qu'est aussi la restauration dans les facettes normales, le quotidien, où quand même c'est quand même un rythme, un automatisme, mais aussi dans les facettes en dehors. Parce que la vie de chef, c'est vraiment chouette. Mais est-ce que les jeunes voient ça? Ils ne le voient pas. Et si je peux les emmener avec moi, j'essaie de le faire. Justement, dans un événement ou l'autre, ben voilà, on va avoir la fourchette, ben j'emmènerai mes équipes avec moi, parce que j'ai envie qu'ils voient, j'ai envie qu'ils s'amusent aussi, qu'ils rencontrent d'autres personnes, qu'ils rencontrent d'autres équipes. Et c'est ça aussi tout le bénéfice de ce métier, c'est la rencontre. La structure de cuisine ou l'organisation, je n'aime pas qu'elle soit figée. Elle change tout le temps. Donc, ça dépend de la force que j'ai en place. Donc, imaginez, vous avez un jardin et vous plantez les plantes toujours au même endroit, toujours de la même manière. Mais les plantes, après 3-4 ans, elles ne donneront plus rien parce qu'elles ont besoin de bouger. Donc, dans mes équipes, c'est la même chose, au fait. Dans mes équipes, Mes gars, ils sont toujours au même poste, mais après 3 mois, ils en ont marre. Et donc, je les change. Et en fonction de ce que j'ai pu observer, de leurs capacités, il y en a un qui est un peu plus fort en organisation, il y en a un qui est un peu plus fort en créativité, il y en a qui est un peu plus fort en cuisson, mais on va les bouger un peu. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est moins fort que je vais pas le mettre. Je dis voilà, je vois un qui est un peu pas une super organisation, je vais le mettre à un autre poste pour faire en sorte qu'il se sorte un petit peu et qu'il montre qu'il a envie de montrer. Donc chaque fois que les gens changent de poste, ils ont envie de montrer qu'ils peuvent le faire. Donc là, c'est très enrichissant pour eux, même pour moi. C'est pas pratique, hein. Je l'avoue, c'est pas le plus facile. Mais si aujourd'hui on fait des trucs faciles, ben on s'emmerde en fait. Et à la fin, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont polyvalents. Si vous avez un garçon qui a un CV grand comme ça et qui est allé dans des grandes maisons, et puis tu les vois travailler, ils savent pas lever un poisson, ils savent pas cuire, ils savent pas... Mais t'as fait quoi là ? Ah, mais j'ai fait le même poste pendant X. On est une école dans le sens où il y a plein de jeunes qui sont sortis d'ici et qui ont ouvert leur restaurant et qui maintenant ont du succès, ont des étoiles ou pas d'étoiles, mais ils sont reconnus dans leur région, quoi. Et pour moi, c'est le plus important. C'est leur donner toutes les clés, tous les outils pour pouvoir réparer leur voiture eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'on posait la même question aux cuisiniers il y a 40 ans. Et 40 ans, on leur demandait c'est quoi l'avenir de la gastronomie. Il y avait des gens qui avaient les réponses, d'autres qui n'avaient pas, donc ils disaient oh, ça va être plus difficile dans l'avenir, etc. Et c'est ce qu'on entend toujours, c'est que demain, ce sera toujours plus difficile. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de voir comment on vit aujourd'hui, comment sont les circonstances. On se plaint énormément, mais on voit bien qu'il y a quand même des restaurants qui fonctionnent très très bien. Mais c'est pas parce qu'ils fonctionnent très très bien qu'ils ont les clés pour l'avenir. Donc ce qui est important, c'est de voir effectivement que l'aspiration du personnel ou des jeunes dans les restaurants, c'est plus la même chose qu'il y a 30 ans. Donc il faut rester observateur, voir un petit peu ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent un équilibre entre ce qu'ils aiment faire, leur métier, et ce qu'ils aiment être, leur vie. Et il faut trouver la balance entre les deux. Et en même temps, il faut qu'ils trouvent leur motivation aussi dans un métier qui est quand même une certaine contrainte. Donc si on leur donne pas une motivation à ce niveau-là, leur métier, qui prend quand même la moitié de leur temps, devient difficile à faire. Donc c'est là qu'ils abandonnent. Donc je pense qu'il y a cette partie métier, mais il y a aussi la partie client. Les clients, c'est aussi très important, c'est qu'on doit... Les gens aujourd'hui veulent plus rester 5 heures à table, à la même table, à manger un menu pendant 5 heures et sans stimulation intellectuelle. Il faut les stimuler, il faut leur donner de l'expérience. Les gens, ce que j'aime quand ils viennent ici, c'est me dire... L'expérience était super. C'est une expérience qu'on doit vivre. Et quand on a un bâtiment comme celui-ci avec 5 hectares, je trouve toujours dommage de laisser des gens à une table pendant 5 heures. Donc j'ai envie de les faire bouger. Donc nous, les gens, ils prennent l'apéritif ici. On passe en cuisine pour prendre une dernière mise en bouche. On passe dans la salle. Et notre avenir, c'est encore de les faire bouger un peu plus. Peut-être descendre à la cave, manger un truc, puis remonter, aller dans le jardin. Pour que les 5 heures, ça passe comme si c'était 1 heure. On ne peut pas s'ennuyer, c'est important. Je pense qu'il est important de leur donner quelque chose qui les réconforte, mais en même temps, que les gens se disent « Oh, c'était quelque chose qui était unique, qu'on n'a jamais mangé ailleurs, ou un goût qu'on ne connaît pas. » Mais il faut toujours avoir aussi un rapport avec leurs souvenirs. Si tu enlèves le souvenir des gens, ils ne vont pas comprendre ce que tu fais. Donc c'est pour ça que j'ai des plats qui s'appellent la moule frite, le gicon gratin, le poulet waterzooi ou le poulet du dimanche. Et des gens disent « Ouais, c'est génial, ça me goûte le poulet du dimanche, mais il est différent. » Et c'est ça qui est important, c'est pouvoir titiller, avoir donné le sourire aux gens. L'humour est important aussi, il y a plein de choses. Moi, je le prends comme ça, j'ai toujours dit que c'était le plus beau métier du monde, même s'il n'est pas essentiel. On pourrait dire que le métier du monde, c'est de soigner les gens. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on s'est rendu compte pendant la pandémie que les restaurants, même si ça paraît pas essentiel, c'est essentiel dans la santé mentale des gens. Parce qu'ils doivent s'évader, manger, ils doivent quand même manger. Mais si elles peuvent manger et avoir encore plus d'expérience après, c'est quand même mieux. Donc aujourd'hui, les restaurants, on se rend compte que c'est essentiel, mais il faut tenir compte énormément des personnes qui travaillent, mais qui viennent manger. Pour moi, c'est fou, mais c'est la même chose. Mais j'ai deux clients, les clients intérieurs et les clients extérieurs. Et c'est vraiment important de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux. Les gens, quand ils viennent ici, ils veulent tirer de l'expérience, les clients. Mais mon personnel, quand ils viennent ici, ils veulent aussi tirer de l'expérience. Et donc, quand on balance bien les deux, ben voilà, on a énormément de satisfaction à la fin, quoi. Ici, ça fait 25 ans qu'on a ouvert l'ère du temps. 25 ans, ça pourrait pas. Si aujourd'hui je dis 25 ans, c'est beaucoup, et je me sens fatigué, ben là, je peux dire, je peux m'arrêter. Mais ici, après 25 ans, j'ai toujours envie de faire des choses. Je me dis que c'est que le début et je sais qu'une vie ne sera pas assez pour arriver là où je veux arriver. C'est-à-dire avoir quelque chose qui soit très cohérent, en correspondance avec la nature, avec ce respect. Et ce respect, il est bien plus que la parole. Pour moi, c'est un respect qui fait partie de ma manière de vivre. Mais je ne suis pas non plus un radicaliste. Donc, je ne suis pas extrême. Non. Donc, je respecte la nature, mais j'adore aussi la technologie, j'adore les temps modernes. Je suis vraiment... J'ai un restaurant qui correspond à ma personnalité. Mais demain, là, quand je vous disais que je retrouve tout doucement mes racines, bon, je reviens d'un voyage en Corée qui était fabuleux, avec des amis, notamment avec Pascal. Et j'ai encore envie de retrouver... Quand je retrouve la Corée, je retrouve une partie de moi-même, mais j'ai encore envie d'aller encore un peu plus loin. Donc voilà, on a des projets avec la Corée, on a des projets avec notre bâtiment ici, j'ai des projets aussi peut-être avec des jeunes pour leur transmettre quelque chose d'ici. Voilà, maintenant je suis pas quelqu'un qui possède, je veux pas posséder, je suis plutôt un contemplateur. Je vais pas acheter un tableau, mais je vais me prendre rendez-vous avec lui pour aller le voir. C'est plutôt comme ça que je le vois, je n'aime pas posséder, j'aime contempler. Et ceci, ben, je veux pas le posséder non plus. Peut-être que, je ne sais pas, j'ai l'idée de voir avec mes équipes, peut-être, de créer une transmission, des choses comme ça. Il faut quand même aussi penser un peu à l'avenir. J'ai 54 ans, j'ai encore tout l'avenir devant moi. Mais, il faut aussi penser à autre chose. Donc moi, mon métier, je continuerai toujours à le faire, tant que je sens que j'ai la passion pour le faire. Mais j'ai aussi plein d'autres choses à explorer. J'ai pas de problème à me dire que ce métier, la gastronomie, elle va changer comme elle l'a fait pendant des centaines d'années. Hein. La gastronomie, elle a changé depuis Escoffier ou depuis Carême, depuis même avant. Les Chinois ont une culture incroyable, l'Asie a une culture incroyable. Donc elle a changé, la gastronomie. Elle est aujourd'hui beaucoup plus terre d'influence. Demain, elle va continuer à être influencée, bien qu'on dise le contraire. Même si on prône le local, ça n'empêche pas d'aller voir et de voir ce qui se fait ailleurs. Mais pour moi, la gastronomie va changer dans la manière dont on va la gérer. Il y a plus ce cérémonial, il y a quelque chose qui doit être beaucoup plus naturel. Quand on vient manger au restaurant, on doit être relax, on ne doit pas sentir qu'on est dans un endroit où il faut bien se tenir, etc. Nous, on propose de manger avec les doigts, tu vois, il y a quelque chose qui doit être plus naturel. C'est ça, et c'est pas se dire « Oh, c'était bien, mais oh, c'était un peu difficile, hein, non. » On a juste, quand les gens s'en vont, se dire « Oh, on a encore envie de faire une autre expérience. » Voilà, et c'est ça. Ça veut dire que tout est réussi. Des événements comme Fourchette, je pense que c'est vraiment important de pouvoir rencontrer des chefs, des collègues. Et ça aussi, d'un autre côté, c'est bien pour nous en tant que chef, mais il faut que ce soit bien... pour les équipes qui rencontrent d'autres équipes. Et ça, c'est quelque chose que, à un moment donné, j'en avais un peu marre de faire ces événements, parce que c'est quand même 450, 500 couverts, c'est vraiment une grosse production, ça veut dire plus de travail pour tes équipes, etc. Mais après le Covid, on s'est dit, on était tellement fermés sur nous-mêmes qu'il faut de nouveau repartir à la découverte d'autres. Et j'ai eu l'occasion de la deuxième année, je pense, et c'était Michael Vremouth qui m'avait invité là. Et j'étais vraiment surpris de l'organisation pour une deuxième année. Je trouvais ça super, en fait. Et puis là, maintenant, je suis curieux de revoir. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai vu avec le temps un certain branding. Et je trouve que c'est assez sérieux. Voilà.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur Satellite Gourmet, visitez le site satellitegourmet.com. À bientôt.